Lilith, Martine et les autres.
Marie-Charlotte, vous reprendrez bien une petite tasse de thé?
Oh oui, volontiers.
Avec un nuage de lait?
Oui, merci.
Ouh, c'est chaud. Mais, oh, c'est 17h. C'est Lilith, Martine et les autres.
Eh oui, c'est l'heure.
Lilith, Martine et les autres, l'émission féministe à l'heure du thé.
Alors, bienvenue sur Lilith, Martine et les autres. On est bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, sur 102.2. Et on a commencé avec une petite touche de renouveau grâce à ce nouveau générique. Merci et félicitations. On commence aussi par une petite dédicace à Kokan Kedi. Ah, vous vous reconnaîtrez. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'amour. Vaste sujet, me direz-vous. Et oui, vous répondrai-je. Et c'est pour ça que l'émission du jour sera éclectique. Pas facile de faire le tri. Alors, en vrac, on va vous parler des différences entre amour et amitié, d'autonomisation par rapport à la recherche de l'amour, de mythes du prince charmant en proie aux contradictions féministes, des analyses autour des tabous de l'amour et de la construction genrée. Tout ceci centré autour du sentiment amoureux, et principalement dans les relations hétéro. On vous a fait de beaux petits montages musicaux, et c'est une émission où on a laissé libre cours à notre créativité. Et pour tout vous dire, on est assez stressé de parler d'amour à la radio. Alors, accrochez-vous, l'amour, c'est parti.
Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville.
Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime.
N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime.
Je t'aime.
je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit.
Je te le dis quand même.
Amour, hiérarchie et classification. On peut trouver différentes sortes d'amour, différentes façons d'aimer les gens, d'avoir des relations avec. Mais on distingue en particulier un amour, l'amour avec un grand A, l'amour qui dure, qui durera toujours. L'amour qui va nous permettre de se réaliser en tant que femme, de fonder une famille et d'avoir des enfants.
Je crois entendre ta voix d'une femme à murmure qui me disait je t'assure. Le grand amour sorti à temps viendra pour toi, j'en suis sûr. Il guérira tes blessures. Le grand amour.
Bref, l'amour que l'on va trouver auprès de l'homme de sa vie.
L'homme de sa vie. L'homme de sa vie.
On parlera ici
d'homme de sa vie,
car ce modèle est totalement hétérocentré et calqué sur un mode de vie hétéro, même si le mythe de l'amour suprême ne se circonscrit certainement pas aux relations hétéro. Face à cet amour, on a deux solutions. Soit on le cherche.
Ça fait pas fumer, ça.
On l'a déjà trouvé, car sans lui, il va sans dire que l'on est incomplète. Pourtant, certaines personnes résistent à cette obligation de trouver le grand amour, comme on le verra dans l'interview.
J'ai décidé de ne plus avoir de relations amoureuses au sens classique du terme.
Dans le but d'être efficace dans la recherche du grand amour, on nous apprend très tôt à classer nos relations, nos sentiments, dans différentes cases. Amour, amitié, désir. Et pour faire la différence entre ces différentes catégories d'amour, on nous apprend tout d'abord que les filles sont nos copines ou nos rivales et que les garçons, les potentiels hommes de notre vie, dont il faut se méfier parce qu'ils sont plus forts. Quand on se rend compte qu'on peut aussi être ami avec les garçons et ressentir des sentiments forts pour les filles, c'est alors le sexe, le désir physique qui forme la barrière pour nous permettre de classifier. Un peu comme si l'amour et l'amitié n'étaient qu'un seul sentiment, l'attirance physique, en plus ou en moins, nous permet de faire la différence entre les deux. Et là, on trouve une partie de ce qui nous permet de faire une hiérarchie entre l'amour et l'amitié. L'amour ou la relation amoureuse a quelque chose en plus que l'amitié. Et c'est le sexe. On ne réfléchit pas autrement en termes de différenciation du sentiment entre les deux. On ne dit pas, par exemple, l'amitié, c'est quand il y a la confiance en plus. L'amitié, c'est quand il y a la complicité en plus. Non. Donc l'amour, c'est de l'amitié avec du sexe. Pourtant, il peut y avoir du sexe sans amour. Il peut y avoir de l'amitié avec du sexe. Il peut y avoir de l'amour sans sexe. La classification ainsi opérée permet alors de se rattacher à des modèles de relations. La société nous montre des ensembles de comportements à avoir, à adopter selon la relation que l'on a. Si c'est une relation du type amical, si c'est une relation du type amoureuse, si c'est une relation familiale. Idéalement, si on est dans une relation amoureuse, on doit faire du sexe. On doit aller au restaurant, se faire des petits cadeaux, des fleurs principalement.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines.
Aller au cinéma, pratique, on sait quoi consommer. Et on doit avoir pour but, comme évolution de la relation, d'habiter ensemble, de partager ses biens, de ne pas avoir de secret, de rencontrer, voire de faire partie de la famille de l'autre. Et puis, d'avoir des enfants. Inversement, dans une relation d'amitié, on ne doit pas faire de sexe. On peut partager des moments à deux si c'est pas ambigu aux yeux des autres. Donc souvent, on exclut les moments à deux avec des garçons quand on est une fille. On doit s'amuser, se soutenir. Mais on s'éloigne de ses amis au fur et à mesure que notre couple avance. Si tu n'as plus d'amis, pas de panique, au contraire, c'est bon signe. C'est que tu as bien choisi
ton homme de ta vie.
Qu'il te comble totalement, que tu n'as besoin de personne d'autre. L'amour est ainsi vécu comme un capital fini que l'on partage entre sa relation amoureuse, ses amitiés et sa famille. Impossible d'être amoureuse de deux personnes en même temps. Comme si notre capital amour n'était pas assez grand pour contenir deux sentiments amoureux. Alors qu'en fait, on peut voir l'amour différemment. Pas comme un bloc, ni comme quelque chose de naturel, mais plus quelque chose qu'on apprend, qui a différentes formes, différentes intensités, qu'on n'aime pas tout le temps pareil, même si c'est la même personne, que la relation peut aller et venir.
Ça s'en va et ça revient.
On peut voir aussi un continuum entre amour-amourosité et amour-amitié. On peut aussi se dire qu'on peut faire du sexe ou ne pas en faire, et ce, avec qui on veut. Alors, libérons-nous de nos cases dans lesquelles on se met, dans lesquelles on se force à nous mettre. Inventons, imaginons et aimons sans compter.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les baisers, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes et les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus en statue creuse, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. l'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, statue creuse, mais là donc orgueilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les autres popistèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
Lilith, Martine et les autres, spécial amour.
J'ai décidé de ne plus avoir de relations amoureuses au sens classique du terme. À un moment donné, dans ma vie, je me suis rendu compte que quand j'étais en relation amoureuse avec une personne, Ça biaisait un peu le truc de départ, en fait, que ça faisait une porte d'entrée facile sur l'intimité de l'autre, et que plutôt ce que je me disais vraiment à ce moment-là, c'était tiens, cette personne elle m'intéresse et j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de la connaître, et du coup ben avoir une relation amoureuse avec cette personne et coucher avec cette personne, et ben ça faisait rentrer plus facilement dans l'intimité et dans connaître plus facilement, plus rapidement l'autre, et avoir accès à des parties de l'autre qu'on met plus de temps à découvrir quand c'est des autres types de relations qu'on met en place. Et je pense aussi, au-delà de ça, moi j'ai toujours eu une espèce d'angoisse par rapport aux relations amoureuses, là, parce qu'il y a beaucoup de pression sur ce que c'est l'amour, comment il faudrait être amoureux ou amoureuse, comment il faudrait avoir des relations super géniales avec une personne avec qui ça irait tellement bien et qui nous apporterait tout ce qu'on veut dans la terre entière. Moi j'ai l'impression que dans ma tête, en tout cas, il y avait toujours cet arrière-fond de... c'est la personne importante en qui tu dois mettre plein de choses et avec qui ça doit bien marcher et avec qui ça doit rouler et avec qui on doit travailler ensemble sur nos constructions, sur nos schémas pour que ça se passe bien et que tant qu'on s'aime, on pourra trouver une solution pour s'aimer encore et puis on va se tordre le cerveau dans tous les sens et on va y arriver. Parce que ça ne veut pas dire que je tombe pas amoureuse des personnes, par exemple. Moi, je tombe amoureuse toutes les 2 minutes et demie. Ça me fait des papillons dans le ventre, ça me fait des petites paillettes dans les yeux. C'est-à-dire que c'est pas... être amoureux, donc avoir une relation amoureuse avec la personne, ce qui implique se rouler des grosses pelles, coucher avec la personne ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est plutôt être amoureux de la personne, donc vouloir rencontrer cette personne et vouloir avoir une relation un peu privilégiée avec cette personne d'une autre manière, en fait. Dans ma vie, là, c'est tout un enchaînement de... Au début, j'avais beaucoup de relations amoureuses et avec des garçons. Et avec aussi quand même ce truc d'attirance pour des nanas dès le départ. Et au fur et à mesure que j'avais des relations avec des garçons, là, je me rendais compte que ça me faisait complètement péter les plombs et que ça me faisait complètement vriller et que c'était trop, quoi. J'arrivais pas à gérer et je trouvais que ça me mettait dans une position que j'aimais pas, en fait. Où ça me mettait en... Ce côté-là aussi, où dans les relations amoureuses, tu te sers de la personne comme un pilier vachement fort. Et moi, ça m'a complètement bloqué, parce que du coup ça fait une grande insécurité aussi. Parce que si t'as cette personne avec qui t'es fort lié et avec qui en qui tu mets plein de choses et plein de... où ta sécurité, elle dépend de cette personne-là, et ben tu sais très bien que s'il y a le moindre truc qui se passe du côté de la personne et que... elle t'aime moins, ou qu'elle veut moins te voir ou quoi, et que toi t'as besoin de cette personne-là, et ben... Ouais, Et parce que aussi, du coup, même des relations avec des meufs, ça m'a pas paru plus simple. À un moment donné, je me suis dit, je vais avoir plus que des relations avec des meufs et des gars, c'est bon, j'arrête. Et ça n'a pas été plus simple pour moi non plus. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être autre part qu'il faut chercher. You're not to blame, it's just what we're living in. We're presidents of cocaine and settling secret dragon. Bah, par exemple, avec les relations avec la famille, là, c'est juste que moi, j'ai pas envie de me mettre en jeu plus que ça et de rentrer dans des grands débats théoriques avec les gens de ma famille parce que ça m'intéresse pas. Ce serait trop d'énergie pour pas assez de choses et que juste une réponse simple et courte de ben non, je suis pas en relation amoureuse et je le vis bien et ça va. Et qu'à force que je dise aussi des petites phrases de temps en temps de « oui, mais on n'est pas obligé de te marier, oui, mais on n'est pas obligé de ceci, oui, mais on n'est pas obligé d'être en couple, oui, mais on n'est pas obligé de... » Alors je pense aussi que les gens, ils assimilent au fur et à mesure que je suis un espèce d'objet étrange à ce niveau-là, là, et que du coup, bon, bah, c'est pas grave, quoi, enfin, juste... On comprend pas bien ce qu'elle est, si est-ce qu'elle est gouine ou est-ce qu'elle est pas gouine ou est-ce qu'elle a même des relations avec des gens, on comprend pas bien, mais en tout cas c'est un peu bizarre, alors on va pas trop triturer dans ce sens-là non plus, quoi. Ouais, j'ai des désirs, j'ai pas forcément des désirs envers toutes les personnes de qui je suis amoureuse, mais j'ai des désirs, ouais, effectivement. Et après... Je trouve que c'est aussi... J'aime bien cette expérience de juste vivre son désir toute seule, là où, je sais pas, de se dire, tiens, ça me fait des trucs, ça m'émoustille un peu, mais juste, j'aurais qu'à juste garder ça, et puis ça me fait des petites expériences où je guette un peu comment ça se passe chez moi, le désir, et comment... où je trouve que je laisse plus la place à ce moment de désir aussi, du coup, même si je sais qu'a priori, ça va pas aboutir à des relations physiques et sexuelles avec la personne, là. Mais que du coup, ça fait... Ça, plutôt que de me précipiter dans la voie de « je désire quelqu'un, je vais coucher avec quelqu'un », eh ben, ça fait un truc que je me réapproprie juste à moi, là, et que je repose pas sur l'autre personne. Quand elles parlent de leurs histoires d'amour, leurs histoires de cul, je trouve ça quand même chouette parce que c'est participer à leur vie et du coup plutôt ça me va. Mais après effectivement quand t'es dans des ambiances où tout le monde est tout le temps à fond sur rencontrer quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un, genre en mode drague à fond ou quoi, ça peut me saouler, ouais. Et aussi je pense que depuis que je vis mes relations amoureuses comme ça, je me sens plus tranquille par rapport à moi-même et vachement plus à l'aise à mieux m'aimer moi-même et à mieux me dire que ben en fait ce que je suis c'est ce que je suis et c'est pas grave si les gens ils m'aiment pas, et plutôt il y a pas forcément de raison pour que les gens ils m'aiment pas a priori. Et aussi ça c'est un truc qui joue dans le fait de plus avoir de vue en vue le mot relation amoureuse là, c'est que je me permets vachement plus le toucher avec les gens et il y a moins d'enjeux au contact et du coup il y a des potes assez proches avec qui du coup je peux me permettre vachement de toucher, de câlin, de dormir ensemble. Assez logiquement dans la tête de quelqu'un il y a ce truc de la relation amoureuse au sens classique, elle passe avant la relation d'amitié dans tout ce qui est intimité en tout cas. Et comme moi je base vachement mes relations privilégiées avec les gens là, sur aussi une grande intimité avec les personnes, ben ça fait que comme si mon intimité elle était moins forte que l'autre intimité avec un grand A et un grand I.
Intimité avec un grand A.
Et amour. quelqu'un qui a de l'amour. C'est un peu à chaque personne de creuser pour savoir comment ça peut le faire et quel contrat mettre en place à la rigueur avec les personnes dont tu es amoureuse. C'est un peu plein de petits trucs à trouver là. Et moi je suis bien contente parce que j'ai trouvé ma petite place à moi là, qui est un petit carré autour de mes pieds et qui est pas trop mal. Mais je pense que je conseillerais aux gens d'essayer un peu pendant une période de leur vie là, de voir ce que ça peut faire. D'essayer de ralentir les rapports de séduction et de se mettre en moins d'enjeux quand t'es je sais pas dans une soirée ou quand tu rencontres des personnes que tu connais pas et de se détendre un peu là-dessus là, mais après faire exactement comme moi, c'est-à-dire pas avoir de relation amoureuse au sens classique du terme, hein, je crois que c'est un peu compliqué et une vision personnelle de la chose, quoi.
Amur, tu jures, dans Lilith Martine et les autres.
Les effets du prince charmant sur les féministes. Ou le prince charmant et les féministes. Moi j'aime les hommes solides, forts et puissants. Moi j'aime les hommes vulnérables et sensibles. Mais l'idéal, c'est un peu les deux. Un cœur tendre dans une grosse carcasse épaisse, dur et doux à la fois. Mais attention, pas une chochotte non plus. Depuis toute petite, on a l'image quelque part d'un homme idéal. Mais alors, il a intérêt à être caractérisé par quelques attributs masculins virils, sinon c'est quand même pas un vrai homme. Et puis arrive l'âge où l'on fait nos premiers pas dans la rencontre hétérosexuelle. Et là, le temps est venu de confronter le rêve et la réalité. Cette partie est censée tourner autour de l'hétérosexualité puisqu'elle découle du prince charmant et de sa place dans notre imaginaire. Cependant, il me semble que son image peut aussi s'infiltrer dans les relations lesbiennes. Mais c'est une autre histoire, et c'est à creuser encore. Le prince charmant, vous savez, c'est celui qui vient nous sauver, nous protéger, nous emmener dans sa grosse bagnole, nous montrer le monde, nous faire rire, nous fournir du bonheur, en veux-tu, en voilà, de l'argent et du statut social, nous faire l'amour. Mais tout ça, ce ne sont que des images. Et on en est bien consciente. Et on est bien au-dessus de tout ça, nous les féministes. Et on ne va pas tomber dans de tels clichés, attends. On sait bien que le prince charmant n'existe pas. On n'est pas des grosses niaises, on a les pieds sur terre et on est des femmes modernes. Bref, l'amour. De quoi, de qui, pourquoi on tombe amoureuse? En tant qu'enquêtrice Lilith, je me suis posé cette question et je l'ai également posée à plusieurs filles. Plusieurs filles qui se disent féministes. Ce qui en ressort est un point de vue. Et c'est à discuter encore et toujours, et à re-questionner sans cesse, bien sûr. En quoi, en tant que féministe, on reste victime du prince charmant? Comment on gère ses paradoxes intérieurs? Par exemple, Charlotte ne peut plus entrer dans des jeux de séduction parce qu'elle refuse de jouer la fille séduite ou la fille séductrice. Ces deux images lui semblent négatives et elle ne s'accepte pas là-dedans. Pourtant, elle est attirée par les grandes gueules, les gars bien posés dans leur statut social. Et pourtant encore, dès qu'un homme est amoureux d'elle, elle le rejette. Elle doit garder une part inaccessible, mystérieuse, et le défi est bien plus excitant. Elle serait attirée par les hommes qui ne la voient pas, ou en tout cas qui la renvoient à son statut de femme soumise et en demande. Donc Charlotte refuse, d'un côté, les clichés, les places, les rôles genrés de la fille qui pourrait être l'allumeuse, la séductrice et qui utilise les ressorts un peu clichés de la séduction. Et en même temps, elle refuse d'être draguée parce qu'elle refuse d'être une cible. Mais en même temps, elle a d'autres manières de voir la relation qui sont très genrées. Genre les mecs grande gueule et les mecs qui ne la regardent pas. Mais dans tous les cas, elle est un peu coincée. Pour Vanessa, les hommes doivent être sensibles. Ils doivent pouvoir parler de leurs émotions. Ils doivent pouvoir se montrer vulnérables. Mais ils doivent compenser par un attribut masculin. Les muscles. Et oui, elle avoue, il lui faut un corps solide et des poils. Protecteurs, quoi. Elle serait donc celle qui réconforte moralement et il serait le plus rassurant physiquement. Rester un vrai mec. Vanessa, comme beaucoup d'entre nous, est attirée par les bad boys. Les mecs durs, un peu trash. Avec comme imaginaire derrière l'idée qu'on va réussir à briser la glace, le sauver et le faire parler, et qu'il va finir par pleurer, craquer dans nos bras. Caroline, elle, déteste être prise comme un bout de viande, déshabillée du regard, draguée quand elle ne l'a pas décidé. Mais parfois, elle a envie de ça. Et ce serait génial si les mecs pouvaient le voir à ce moment-là et monter à l'assaut de la séduction par surprise. Ça, ce serait l'idéal. Qu'on la surprenne quand elle a décidé qu'elle veut être surprise. Mais bon, du coup, ce serait plus vraiment une surprise. Marie n'aime pas voir son mec souffrir physiquement ou être malade. Ça lui renvoie une image de faiblesse qu'elle n'accepte pas. Mais en même temps, elle aime bien quand le mec a besoin d'elle et qu'elle peut jouer à l'infirmière. D'ailleurs, quand elle voit qu'elle fait tout à la maison, qu'elle s'occupe de lui et qu'en plus, elle y prend plaisir, elle se met à se détester d'un coup dans ce rôle et s'énerve contre elle-même. Barbara aime qu'on la fasse danser le rock et c'est pourtant elle qui aime mener la danse dans les relations. Sarah ne supporte pas les mecs qui n'arrivent pas à se lever le matin et éteignent leur réveil 15 fois avant de se lever en retard et courir hors du lit comme un dératé. Les fantasmes sexuels de Véro tournent tous autour d'un homme offensif et actif tandis qu'elle serait passive. Pourtant dans la vie, c'est plutôt elle qui décide. Tous ces exemples montrent qu'on a toutes des contradictions et des paradoxes qui sont à la fois construits d'une manière, d'un certain côté, par l'idéal, un idéal masculin construit socialement, un prince charmant, fort, protecteur. C'est aussi nuancé par le fait que on essaye de déconstruire le genre. Bref, on n'est pas toujours à l'aise avec tout ça et ça provoque parfois des conflits intérieurs. On veut bouger les cases, on veut déconstruire, mais on ne sait pas toujours quoi mettre à la place. Et puis on se rend compte qu'on est dans des clichés et alors on s'aime pas là-dedans. Mais on tombe forcément dans des clichés. Le problème avec le fait d'être une femme, c'est que rien n'est valorisant. Il y aura toujours une image négative qui nous rattrapera. Par exemple, si on veut être rassuré, ça veut dire qu'on est vulnérable, ça veut dire qu'on est un petit peu fragile, on n'aime pas ça. Si on veut être rassurante, ça veut dire qu'on est protectrice, maternante, on n'aime pas ça non plus. On essaie de se sortir de rôle tout le temps, mais pour tomber dans un autre rôle qu'on n'aime pas non plus. Et le problème, c'est que du coup, des fois, on se retrouve dans une impasse. Et on se retrouve avec des conflits intérieurs qui ressemblent à des situations qu'on ne peut pas dépasser. Bien sûr, on tombe dans des paradoxes. Mais de toute manière, on est toujours bourré de paradoxes. Et on est toujours à la fois construite socialement. Et l'imaginaire du prince charmant, l'imaginaire de la personne idéale, de l'homme idéal, on n'y échappe pas. Donc il faut faire avec et s'approprier ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et surtout avoir continué à prendre conscience de ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble faux. Il me semble que c'est ça qui est important. Il y a plusieurs solutions dans ces cas-là. On peut se faire confiance et se dire qu'on est fortement convaincu par des muscles, mais c'est sûrement pas seulement à cause des muscles qu'on est amoureuse ou attirée, qu'il y a bien sûr autre chose, et que la relation est quand même bien importante là-dedans. Donc on peut choisir d'accepter aussi ces contradictions et d'accepter ces paradoxes. On peut aussi accepter ces contradictions en se disant qu'on est stratégique et se rapprocher des hommes parce que ce sont eux qui ont le pouvoir et en profiter sans vergogne. On peut aussi être lesbienne parce qu'on évitera un certain nombre de rôles genrés préétablis. On peut aussi décider de déserter l'amour pour choisir d'être entièrement soi-même. En tout cas, les filles choisissent ce qui leur convient le mieux. Pour conclure, je dirais que l'amour est une source de bonheur, mais elle est aussi une prison. Plus pour les femmes que pour les hommes, il nous semble. J'ai pas vraiment trouvé la clé pour rester le plus libre possible dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est un aller-retour permanent entre une représentation, des images, et aussi une appréhension du réel. Mais parfois, on a la sensation de ne plus savoir où se trouve notre libre arbitre. Et même, est-ce qu'on en a un ? C'est une question hautement philosophique quand on se rend compte que les rôles sont déjà écrits pour nous, les femmes. Et surtout quand on sait que la vie d'une femme dépend bien plus d'un homme que l'inverse.
There are two. There is no resurrection. There is so much confusion and the love.
Façon James Bond dans Lilith Martin et les autres.
Ah, oh, James, je ne trouve pas les mots.
Mais je peux essayer d'élargir ton vocabulaire.
Ne passe pas ma chemise. J'ai un coup de fil à donner.
Mademoiselle.
J'ai un coup de fil à donner.
Mademoiselle.
Eh bien, je me suis penché sur un vieux dossier.
Oh, comment? Je suis un vieux dossier, moi?
James, on est plus...
On dirait que tu n'es pas content de me voir ce matin, chérie.
Oh, est-ce que je te plais encore?
Voyons, tiens-toi tranquille.
Elle aurait dû garder le bec fermé.
Mes amis m'appellent James Bond. Bond, James Bond.
Je croyais que vous n'attendiez que moi.
Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu?
Désolé, chérie, le devoir m'appelle.
Mais James, j'ai besoin de toi.
L'Angleterre aussi.
Oh, James. Oh, oh non. James, c'est un conte de fées. Oh. Oh, non.
Écoute, chérie. Tu sais que tu dois obéir.
Oui, James. Oh, James, tu me fais mal.
Eh bien, tu en verras d'autres si tu l'avoues pas. Menteuse. Allons.
Oh non. Non. Je sais que je t'aime, James. Oui, je t'aime.
Allons, dis-moi.
Je t'aime, c'est vrai.
Vous écoutez Lilith Martin et les autres, et c'est une émission spéciale Amour. Et là, on est dans les studios, on a fait plein de petits enregistrements avant où on s'est senti très inspiré par ce thème. Et donc là, on est dans les studios avec Mabel qui a réfléchi aussi sur ce sujet et qui avait pas mal de choses à nous dire. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous dire, Mabel? À quoi t'as pensé?
Bah, bonjour. Tout d'abord, je voudrais faire une spéciale dédicace à mes chers élèves en première ES à lycée Jacques Prel. Wesh.
Wesh.
Alors, je me suis penchée sur la question de l'amour depuis un certain temps. Et du coup, je suis assistante d'anglais au lycée. Et sur l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai découpé des petits cœurs en rose et... j'ai souhaité mes élèves un joyeux Saint-Valentin. Et ensuite, je leur ai posé plein de questions sur l'amour. Et par exemple, s'ils pensent qu'on puisse trouver de la vraie amour sur l'Internet, s'ils se marieraient avec une personne d'une différente nationalité, et ce qu'ils feraient s'ils étaient amoureux d'une personne que leurs parents n'acceptaient pas. Et du coup, mes braves élèves, ils parlaient... Ils parlaient vraiment beaucoup et ouvertement de leurs idées, leurs rêves, leur vécu et de leur culture qui, en fait, j'ai trouvé que leur culture marque vraiment beaucoup leurs idées et leurs rêves. Et aussi, j'étais impressionnée que les filles, aussi bien que les garçons, parlaient de ces questions. Et moi, j'avais vraiment l'impression que mes élèves embrassaient les idées... toutes ces idées de couple, de mariage, d'un jour avoir une famille. Et en fait, pour moi, c'était vraiment frappant, cette différence, parce que moi, je trouve que dans les milieux où je me retrouve assez souvent, ces idées sont quasi systématiquement condamnées comme les mauvaises répercussions de la patriarchie. Ça, je vous explique. Je veux dire la famille nucléaire avec des parents comme des chefs, avec un certain éloignement de la communauté et une certaine aliénation individualistique. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans un vide sans vraiment avoir de repères. Je ne sais pas si ça fait sens. Oui?
Oui.
Moi, un peu. Ok, très bien. D'un côté, j'étais émerveillée et émoustillée par mes élèves parce qu'ils sont tellement sincères dans leur espoir et leur désir d'avoir de l'amour. Et en plus, ils assument totalement qu'ils veulent avoir de l'amour dans leur vie et dans leur futur. Et je pense sur un certain niveau, parce qu'ils sont jeunes, ils sont des lycéennes, c'est facile de dire que c'est un espoir naïf. Mais moi, je refuse de croire que c'est naïf. Je ne connais pas leur parcours personnel, mais je pense que qu'ils s'ouvrent vers l'affection et la tendresse et donc ils s'ouvrent vraiment vers des relations intimes qui pourraient devenir des échanges d'amour et c'est assez impressionnant, je trouve. Et c'est hyper mignon, ils sont trop mignons mes élèves. Mais de notre côté...
Il nous écoute quand même.
Oui, salut. Et d'un autre côté, je trouve que par rapport à mes amis qui emmènent un autre discours par rapport à l'amour, je trouve que c'est ultra important de remettre en question toutes ces idées reçues de la culture générale autour du couple, de le mariage et des enfants éventuels. C'est aussi important de remettre en question mes idées de l'amour et quelle place ça prend dans ma vie, et de regarder mes relations et mes actions avec un regard critique. Peut-être je fais ça pour essayer de au moins comprendre ma façon d'agir dans le système où je suis. Et du coup, mais quand même, il faut dire que je me retrouve souvent entourée par des gens qui trouvent que l'amour est de la merde. Et ça m'encourage pas beaucoup d'essayer de vivre avec une éthique de l'amour. Et je trouve qu'en fait, avec mes élèves et avec mes amis, je suis très chanceuse de pouvoir accéder les idées et les fonctionnements de plusieurs communautés, parce que ça me permet d'élargir un peu les champs de mes perspectives et de comprendre un peu plus comment les autres vivent leur réalité. Ok, alors, je reviens à mes conversations avec mes élèves pour noter qu'en fait, on parlait des choses autour de l'amour. On parlait de la romance, du couple, de nos futurs imaginaires. Mais en même temps, on ne définit jamais l'amour. On ne parlait pas de la place que l'amour prend. On ne parlait pas de la place que l'amour prend dans nos vies. Et on ne parlait pas de ce que c'est l'amour pour nous. Mais encore, en fait, j'étais assez consciente que je ne savais pas comment poser des bonnes questions pour emmener nos conversations vers une véritable interrogation de comment on aime et comment on reçoit de l'amour. Parce que c'est ultra intime, ces choses. Et il me semblait en fait trop personnel et trop intime. Et donc, j'ai trouvé ça un peu déplacé de parler de telles choses. Mais par contre, c'était super fun de discuter avec mes élèves de ce qu'on ferait si on découvrait que nos chéris nous trompaient, ou ce qu'on ferait si nos belles-mères nous détestaient. Non, mais c'était génial. Les réponses étaient bien vives. Là, j'étais frappée par la réalisation que oui, en fait, il y a un énorme tabou autour de parler de l'amour. Et je veux dire de parler honnêtement et sincèrement et de parler ouvertement de qu'est-ce que c'est l'amour dans nos vies. Et donc, j'ai décidé de tâter le terrain et j'ai commencé à poser des questions à tous mes amis. Il y avait une question. Dans quelle mesure est-ce que c'est un tabou de parler de l'amour? Et il y avait beaucoup de silence. mes amis ne voulaient pas vraiment en parler. Ils faisaient style de ne pas s'y intéresser, qu'ils n'étaient pas vraiment une bonne question, qu'ils ne savaient pas vraiment. Ce qui était plus marrant, où ils retournaient des questions en me demandant de quoi est-ce que tu veux vraiment parler? Et du coup, bref, j'ai compris que cette question fut un malaise conversationnel. Et c'était assez curieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui? Un peu? Très bien. Du coup, j'ai changé des questions et j'ai commencé de demander pourquoi c'est plus facile de parler de l'amour quand ça va pas que quand ça va bien. Et mes chers amis, ils répondaient avec une affirmation. Que oui, c'est vrai, c'est plus facile de parler de l'amour quand ça va pas que quand ça va bien. Mais ils répondaient pas du tout à la question. Et du coup, ça me laissait un peu avec le questionnement de comment ça se fait que l'amour est tellement un tabou. Et maintenant, on va écouter un peu de musique.
Oh,
I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and I love what you see. This mind, this body and this voice cannot be stifled. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the sea twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and not at all what you seem. This mama's body and this voice cannot be.
Suite à ces conversations, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une différence que j'ai trouvée. Qu'en fait, je pense que les filles sont conditionnées depuis un âge vraiment très jeune de deux choses. La première, je vais expliquer, c'est que je trouve que les filles sont conditionnées de parler de l'amour, elles sont conditionnées un peu de donner de soi et de prendre soin de ceux qui sont autour d'elle et il me semble que tout ça est d'abord pour qu'un jour ces filles vont devenir des bons mamans qui savent bien comment s'occuper avec ses enfants, comment donner de l'amour inconditionnel et d'être toujours chaleureuses avec leurs enfants. Mais je trouve que ces conditionnements mettent en place des outils qui sont souvent utilisés par ces filles de entretenir et garder des relations amoureuses. C'est-à-dire que ces filles sont équipées de faire marcher une relation amoureuse, même si cette relation est déséquilibrée. Et par ça, je veux dire que... Enfin, déséquilibré, je veux dire que les engagements des deux personnes envers cette relation sont très différents. Je pense que le grand stéréotype, c'est le garçon qui est émotionnellement pas très disponible et la fille qui fait en sorte qu'elle aménage la relation pour marcher, même si, en fait, ses propres désirs et besoins d'une réciprocité émotionnelles ne sont pas satisfaites. Et du coup, je trouve sur une certaine mesure, je pense que c'est assez génial que les filles, elles sont conditionnées d'avoir une certaine ouverture vers les conversations par rapport à l'amour, mais aussi vers le désir d'avoir de l'amour, parce que je pense que ça peut éventuellement nous emmener dans des directions qui peut ensuite s'ouvrir vers un vrai échange de l'amour, un vrai amour. Aussi, je trouve que dans ma vie, je sens plus souvent à l'aise et en confiance de parler avec des autres meufs, par exemple ma mère, ma sœur, mes copines. Et du coup... pour moi aussi, ça relève plusieurs choses, mais notamment, ça revient à cette idée que les filles sont conditionnées de vouloir avoir de l'amour et elles sont conditionnées de vouloir avoir des sentiments. Et je trouve que ça nous facilite des conversations d'amour dans nos vies, de le passé, du présent ou de le futur. Et Et ça peut... je sais pas.
Ça peut être dur, quoi.
Oui.
Et un petit peu de musique.
Oui. Aussi, en parlant avec mes chers amis qui trouvent que l'amour est de la merde, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un véritable climat de cynisme que je trouve dans mon génération envers l'amour. Et j'entends souvent vraiment que l'amour est de la merde, c'est de caca, on veut même pas y aller, quoi. Et du coup, moi, je trouve ça troublant. Car pour moi, ça représente une fermeture d'esprit qui ne laisserait pas de place pour l'amour. Et ça ne laisse même pas une place pour une éthique d'amour. C'est comme si on ne veut pas se confronter avec des risques qui peuvent se présenter quand on s'ouvre vers une tendresse, vers de l'intimité et vers des éventuellement de l'amour. Mais même si on ne veut pas se confronter avec nous-mêmes, on ne se confronte pas avec nos façons de donner et de recevoir de l'amour. Et je trouve ça, en fait, des questions ultra importantes de s'interroger nous-mêmes par rapport à ça. Je trouve ce cynisme et ça relève, pour moi au moins, une façon d'éviter, esquiver un véritable confrontation avec nous-mêmes. C'est comme si c'est plus facile de refuser catégoriquement l'amour au lieu de se confronter avec ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Et par exemple, j'entends souvent que l'amour parfait n'existe pas et ne peut pas exister. Et oui, alors ça dépend comment on va interpréter ça, l'amour parfait. C'est quoi l'amour parfait? C'est l'amour qui tombe de ciel avec un prince charmant, avec des paillettes, mais cet amour, pour moi, ça existe sans engagement et sans travail. Mais je dirais que non, ça n'existe pas. C'est une construction qui fait partie de l'idée qu'on consomme l'amour comme si c'était un bien pour consommer. Tu m'as dit, on m'avait dit, ne cours jamais après un mec. C'est comme des bus. En 2 minutes, t'en auras un autre. Comme si, tu vois ce que je veux dire, comme si l'amour et les amoureux sont jetables, comme si je peux m'embarquer dans une histoire et quand mes désirs sont plus satisfaits, je peux facilement les changer contre une autre relation plus performante. Mais n'oublie pas qu'il y a des milliers de personnes sur Terre et je peux bien en trouver un autre et un autre et encore un autre. Et
oui, il est 6h.
Oui, il est 6h. L'amour n'est pas jetable.
T'as envie de dire un dernier mot?
Oui, je peux parler pendant des heures. Non, mais. Ouais.
Entraînons-nous à parler d'amour.
Oui. voilà. J'espère que vous allez rentrer chez vous ce soir et penser bien de l'amour ce week-end.
Tout, à présent je te dis tout. s'abuser.
Et voilà, Lilith, Martine et les autres, c'est fini la spéciale amour. On se quitte avec Lara Fabian. On remercie Mabel et toutes les filles qui ont participé à cette émission. C'était super. À dans 15 jours.
Ces instants indécis s'écrivent ton passé aujourd'hui. Paco.